Aujourd'hui, nous allons donc parler de la France et de l'élection présidentielle avec le premier tour, le 10 avril, dans 3 mois. Le second, ce sera le 24, une élection dans un climat avec, bien sûr, le Covid et un ton déjà électrique du côté des candidats. Marc Cirlerot, vous êtes avec nous ce matin pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il est difficile, évidemment, de ne pas revenir sur la sortie d'Emmanuel Macron dans le Parisien il y a 2 jours, où il dit « les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder ». On n'a jamais dit ce mot aussi souvent à la radio. Jusqu'au bout, c'est ça, la stratégie. Alors, cette sortie, c'est une erreur ou un choix assumé ?
En tout cas, médiatiquement, c'est réussi, puisque depuis 2 jours, on ne parle plus que de cette sortie d'Emmanuel Macron. Là-dessus, il a gagné son coup. Et puis, on peut dire qu'il n'a pas improvisé. Il savait très bien ce qu'il disait, Emmanuel Macron. Vous savez, il se base sur des chiffres. 80 à 85% des Français, aujourd'hui, sont vaccinés. Il se dit, les non-vaccinés, bah, ils me sont hostiles, ils ne voteront pas pour moi. Et en même temps, une grande partie des vaccinés pensent comme moi et trouvent que les non-vaccinés leur posent problème. Donc c'est un risque calculé, il n'a pas vraiment osé quelque chose en disant ça. Là-dessus, électoralement, ça n'aura pas de conséquences négatives pour lui. En revanche, ce qui est beaucoup plus gênant, c'est les mots employés, vous l'avez dit, emmerdé. Bon, ben, c'est quand même pas banal, c'est un langage de bistrot, de comptoir, de charretier, et pas d'un président de la République. En plus, il est frontal, clivant. Et ça, ça risque de laisser des traces, parce que quand vous voyez déjà la France maintenant avec le problème du Covid, on l'a évoqué, quand on a vu les propos tenus par Éric Zemmour sur un tas de choses, et maintenant c'est Emmanuel Macron qui en remet une couche, il est quand même toujours président de la République. Alors ici, on peut dire qu'il s'est déjà lancé dans la campagne, même si officiellement, il n'est toujours pas candidat.
Mais en tout cas, le grand favori, c'est lui, c'est Emmanuel Macron.
Écoutez, dans tous les sondages, depuis des mois et des mois, au premier tour, on le donne largement tête. Et pour le second tour, dans tous les cas de figure, il est donné vainqueur. Donc dans son camp, vous pensez bien, on est plutôt content, ravi. Mon ce monde, malgré tout, prudent. Écoutez Christophe Di Pompeo, qui est un député proche d'Emmanuel Macron.
Je crois que c'est surtout lié à son comportement, à la façon dont il a dirigé le pays pendant ces dernières années, avec des grosses crises quand même. On a eu les gilets jaunes chez nous qui ont quand même été compliqués pour le pouvoir. On a eu la crise du Covid et je pense que là-dedans, Emmanuel Macron a tracé sa route et que les Français, quelque part, lui reconnaissent le fait d'avoir été un chef dans ces moments-là et d'avoir fait le travail. Moi, je dirais pas que c'est fait gagner. Lors de la dernière présidentielle, et rappelez-vous, à cette époque-ci, en novembre, en décembre, Emmanuel Macron était à 10-12%. Alors après, il y a eu des choses qui sont passées avec la Fillon, avec Benoît Hamon qui avait été désigné, un alignement de planète, mais les choses ne sont jamais faites à l'avance.
Alors, est-ce qu'il faut donc être prudent ? Est-ce que cette prudence, elle se justifie ?
Ben, rappelez-vous, il y a 5 ans, à cette période-ci, aujourd'hui, celui qui était le favori pour être président de la République, il n'y avait même plus de doute, c'était François Fillon. Il avait battu à la primaire de droite Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Tout le monde se dit, c'est lui qui va être président de la République. Et puis, quelques semaines plus tard, fin janvier, il y a un article du Canard Enchaîné qui parle de l'emploi fictif de Pénélope Fillon. À partir de ce moment-là, François Fillon descend dans les sondages et se retrouve 3e au premier tour, alors que 3 mois avant, on le donnait vainqueur. Et personne, même en janvier 2017, n'imaginait qu'Emmanuel Macron puisse devenir président de la République française. Alors aujourd'hui, pour Emmanuel Macron, dans tout l'engrenage, il y a quand même 2 petits grains de sable. D'une part, il y a Éric Zemmour qui est candidat et qui affaiblit Marine Le Pen, alors que lui, ce qu'il souhaite, Emmanuel Macron, c'est se retrouver au second tour face à Marine Le Pen. Il a toutes les chances
comme
de gagner.
Avant lui.
Et puis, et aussi Valérie Pécresse, elle a gagné la primaire de droite, elle commence à monter dans les sondages. Et si c'est elle qui se retrouve au second tour face à lui, ça risque d'être plus difficile pour lui. Et à ce propos, je vous propose d'écouter Pierre Mathiot, qui est directeur de Sciences Po Lille.
Et effectivement, dans le cas d'un deuxième tour, l'hypothèse d'une réélection d'Emmanuel Macron me semble plus compromise parce que l'électorat de gauche qui, en 2017, avait voté Macron au deuxième tour pour faire barrage à Le Pen est un électorat aujourd'hui qui est loin d'être acquis à Emmanuel Macron, a fortiori si la candidate qui est opposée à Emmanuel Macron est Valérie Pécresse et pas Marine Le Pen. Donc c'est vrai que Valérie Pécresse se trouverait probablement, si elle était qualifiée pour le deuxième tour face à Emmanuel Macron, disposerait de chances extrêmement importantes, beaucoup plus importantes évidemment que Marine Le Pen ou Éric Zemmour.
Oui, d'autant, Marc, que Valérie Pécresse et Emmanuel Macron marchent un peu, sur les mêmes plates-bandes.
Oui, ils languent tous les deux l'électorat de droite et de centre-droit. Donc, ils ont fait les mêmes écoles, les grandes écoles, ils ont les mêmes diplômes. Et sur le plan économique, il faut bien dire qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Ils sont tous les deux des libéraux. Alors, jusque-là, on sent vraiment que ça, qu'il y a une vraie concurrence entre les deux. Donc, pour gagner cet électorat de droite, le garder, Emmanuel Macron doit jouer, doit pouvoir compter sur ses ministres, on reconnaît, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, et aussi sur son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, parce que pour eux, ces trois-là qui étaient avant chez les Républicains, maintenant qu'ils sont passés chez Macron, s'ils perdent, c'est eux qui ont le plus à perdre, et ils pourront plus à dire après, on revient chez les Républicains, où on était chez Macron parce qu'il avait gagné, maintenant qu'il a perdu, on revient chez vous, ça passerait mal, donc vous voyez, il doit pouvoir compter sur ses ministres de droite, pour l'emporter.
On doute qu'ils ne seraient pas les bienvenus chez les Républicains avec un retour comme ça. Alors, avec Zemmour et Le Pen, l'extrême droite, elle reste en embuscade.
Oui, on a même l'impression que c'est les propos du grand remplacement d'Éric Zemmour qui donnent le ton de la campagne. On se souvient que c'était le cas en novembre et en décembre. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Mais il faut quand même relativiser. On ne peut pas dire que l'extrême droite cartonne. Alors, si on additionne dans les sondages le score donné à Éric Zemmour et à Marine Le Pen, ils font autour des 30%. Rappelons qu'en 2017, au deuxième tour, Marine Le Pen avait fait 33%. Donc, pour être un peu cru, on peut dire qu'ils se partagent aujourd'hui le pactole, mais que l'extrême droite ne cartonne pas. Ceci dit, pour Marine Le Pen, le fait qu'il y ait Éric Zemmour dans ses pattes, ça rend sa tâche un peu plus compliquée. Je vous propose de réécouter Pierre Mathieu.
Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'apparition de la candidature Zemmour, Marine Le Pen apparaît plus modérée. Il y a beaucoup d'humoristes en France ou dans le Canard enchaîné, par exemple, qui mettent des dessins en disant, en montrant Marine Le Pen, qui dit mais quel est ce qu'on a d'extrême droite en parlant de Zemmour. Elle est un peu coincée dans le sens où son électorat, en essayant de faire attention à sa réputation, à sa modération, en s'affichant avec des chefs d'État d'autres pays, justement en critiquant Zemmour, en critiquant le côté trop radical de Zemmour, je pense qu'elle essaye d'aller chercher un électorat plus modéré. Mais en faisant ça, évidemment, elle risque de perdre, vous voyez, c'est un petit peu quand on jongle les assises chinoises, c'est-à-dire qu'elle risque de perdre une partie d'un électorat plus radical qui va la trouver, disons, un petit peu molle et qui va aller vers Zemmour. Donc elle joue cela, je pense, mais aussi je crois qu'elle joue une forme de présidentialité, c'est-à-dire que pour pas mal d'électeurs qui sont séduits par Zemmour, mais qui quand même ont tendance à considérer que Zemmour est un peu fou et n'est pas très crédible, paradoxalement, Marine Le Pen apparaît comme un peu moins extrémiste et un peu plus sérieuse, et donc peut espérer cela. Voilà. Donc, mais c'est vrai que sa stratégie, là, pour l'instant, elle est coincée. Si on nous avait dit ça il y a 10 ans, Marine Le Pen, politiquement, elle est coincée entre Pécresse et Zemmour. Et pour l'instant, je pense que sa stratégie, enfin, je ne sais pas si elle fait exprès ou pas, mais est de ne pas apparaître trop clairement dans la campagne, puisqu'en ne bougeant pas, elle est à 15-16%, et d'attendre ce qui se passe, entre guillemets, du côté de Zemmour pour peut-être accélérer dans sa campagne.
Alors, la gauche, dans cette élection présidentielle, elle a du mal à décoller. Pourtant, les candidats ne manquent pas.
Ah, ça, c'est sûr. Quand vous faites le calcul, il y a Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, donc Le Vert, il y a Anne Hidalgo pour les socialistes, il y a Arnaud Montebourg, il y a Fabien Roussel, le communiste. Et puis, on ne sait pas encore si Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux de François Hollande, sera oui ou non candidat. Donc, vous voyez, ça ne manque pas. On peut même rajouter Poutou et Artaud à l'extrême gauche. Donc, vous voyez, ça ne manque pas. Mais personne n'émerge. Ça ne décolle pas, et quand vous faites le compte de tous les résultats de tous ces candidats dans les sondages, ils ne parviennent même pas à obtenir 30% tous ensemble. Alors, à titre de comparaison, en 2012, l'année où François Hollande a gagné l'élection présidentielle, lui seul, au premier tour, avait obtenu 28%. Il faut bien dire que son mandat ne s'est pas vraiment bien passé, et qu'en 2017 déjà, quand on faisait l'addition des comptes des résultats de Mélenchon et de Benoît Hamon. Benoît Hamon était soutenu en plus par les Verts, il faisait à peine 25%, donc vous voyez, il y avait déjà un déclin amorcé à partir de 2017.
Et comment est-ce qu'on explique ces mauvais chiffres ?
Oui, et c'est un peu un contraste ou un paradoxe, parce que quand vous demandez aux Français quelle est leur principale préoccupation aujourd'hui pour l'élection présidentielle, tout le monde parle du pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat, vous le savez, c'est un peu le core business de la gauche. Alors comment l'expliquer ? Il n'y a plus de leader incontesté, incontestable comme François Mitterrand, c'est Jean-Luc Mélenchon ici qui est le mieux placé autour des 10%, ben bon, il ne fait pas l'unanimité. Il n'y a plus de grands partis à gauche. Le PS français aujourd'hui est très affaibli. Le mandat de François Hollande a fracturé aussi la gauche. Et puis, il faut bien dire, une grande partie des socialistes sont partis avec Emmanuel Macron. Quand vous voyez la liste des ministres d'Emmanuel Macron, Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, il était socialiste. Olivier Véran, qu'on voit toujours sur les antennes, le ministre de la Santé, il était au Parti Socialiste. Christophe Castaner, Richard Ferrand. Donc vous voyez, un tas de gens sont partis chez Macron, ça affaiblit vraiment la gauche. Et puis aujourd'hui, il faut bien dire qu'entre tous les candidats, il y a une sorte de problème d'ego. Tout le monde veut exister. Alors tout le monde prône le rassemblement, mais à sa sauce et en étant à la tête du rassemblement. Derrière la personne derrière laquelle on doit vraiment se mettre. Et puis, il y a une proposition qui est sur la table maintenant, une primaire populaire pour la fin janvier, pour désigner un seul candidat pour la gauche, mais c'est très mal parti, il y en a déjà deux qui ne veulent pas y aller, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.
Alors en attendant le scrutin d'avril, il reste encore des échéances importantes ?
Oui, notamment le 4 mars. Le 4 mars, normalement, tous les candidats doivent rendre leurs 500 signatures pour pouvoir être candidat à la présidentielle. À ce moment-là, on connaîtra la liste définitive et complète des candidats.
Alors finalement, Marc, c'était un peu la question de base avec tout ce que vous venez de dire. Selon vous, Emmanuel Macron sera réélu en avril ?
Il a de grandes chances d'être réélu, mais n'oublions pas le Brexit, la défaite de François Fillon, la victoire de Donald Trump, et même il y a quelques mois en Allemagne, personne n'imaginait 6 mois avant l'élection que c'était le SPD, les sociaux-démocrates, avec Olaf Scholz qui allait gagner. Ils l'ont fait, donc on va être prudent, on ne va pas faire de pronostics, mais a priori, aujourd'hui, en se basant sur des sondages, mais des sondages ne sont que des sondages, Emmanuel Macron devrait l'emporter, mais soyons prudents.
Un oui, mais de Marc Cirlerot ce matin. Merci Marc, vous suivrez évidemment la campagne en France pour nous. Vous écoutez la première, il est